Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Citlan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, MakingStarWarsFrance.net et Génération Star Wars et Science-Fiction.
A long time ago, in a galaxy far, far away,
there has been an awakening. Have you felt it?
A communications disruption can mean only one thing.
That thing's operational.
Hello, hello, and welcome to
Star Wars on Direct.
Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together.
If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine.
What a strong one.
Hello, what have we here?
Nice of you guys to drop by.
We would be honored if you would join us.
May the Force be with us.
Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette première édition interview qui sera consacrée au fan-film Star Wars québécois, Squad Leader TD73028, Soliloquie. Je suis Danny Pépin et aujourd'hui je serai seul pour vous présenter la première édition de notre nouveau spin-off Star Wars en direct interview. En quoi ça consiste Star Wars en direct interview? En fait, dans la période pré-Disney du podcast, on a enregistré de nombreuses interviews avec des fans, des artisans de la franchise Star Wars que l'on incluait à nos émissions régulières. Mais après le rachat de Disney, on a seulement eu quelques invités qui ont pris vraiment la tête d'affiche de nos émissions régulières, comme Patrice Giraud, qui n'a pas vraiment besoin de présentation, qui était dans le Star Wars en direct 98. On a eu aussi Magali Villeneuve, l'illustratrice française qui a travaillé pour Fantasy Flight Games, qu'on a interviewé dans Star Wars en direct numéro 106, ainsi que Kirill Benzi, l'auteur suisse de la recherche analytique approfondie sur l'univers étendu. Et cet épisode, cette entrevue était dans le Star Wars en direct 118. Donc, avec le regain de vie de la franchise, je me suis dit que ce serait peut-être un bon moment de ramener ce genre de contenu, mais dans une émission qui serait consacrée complètement à l'interview, sans être un peu, encombré par des actualités. Donc j'ai mis en place un nouveau spin-off qui j'espère va vous plaire et qui va permettre de mettre en avant des personnalités qui ont bâti leur carrière autour de Star Wars et les fans qui se sont démarqués par leurs projets originaux et leurs projets créatifs qui ont été inspirés par la franchise. On n'a pas encore établi la façon avec laquelle on va sélectionner les différents invités, mais si vous croyez que votre projet Star Wars mérite notre attention et que vous voudrez passer en entrevue à Star Wars en direct, ben communiquez avec nous à studio@starwars.direct. Bon, le petit WhatsApp habituel, ben le 14 janvier dernier, Star Wars en direct a fêté ses 17 ans de diffusion web. J'ai utilisé le terme diffusion web parce que lorsqu'on a débuté à diffuser nos émissions sur Internet, le terme podcast ou balado diffusion n'existait pas encore. C'est sûr que il y avait pas de réseaux sociaux, il y avait pas de YouTube. Peut-être même que certains d'entre vous, nos auditeurs, n'étaient même pas nés même. Donc, merci à tous les intervenants qui nous ont souhaité un joyeux anniversaire sur les réseaux sociaux. Je crois que l'équipe a été très touchée par vos commentaires. C'est très important pour nous, sachant qu'on est tous des bénévoles, n'est-ce pas? Et puis, on investit tous l'un et l'autre de notre temps à l'écart de nos familles et nos amis pour vous offrir ce petit divertissement hebdomadaire. Donc, merci à tous et on va faire de notre mieux pour que la 18e année soit encore plus divertissante. Donc, les émissions les plus récentes, on a Star Wars en direct Gamers numéro 9, où Jean-François, Julien et moi-même, on a parlé des différents aspects du jeu vidéo Star Wars Battlefront 2, comme la campagne solo, les modes multijoueurs, ainsi que la controverse qui a entouré la sortie du jeu. On remercie aussi nos partenaires, Mintinbox, Star Wars Holonet, Citlan.net, Planet Star Wars, Star Wars Universe, Making Star Wars France et Génération Star Wars et Science-Fiction. Sur ce, on part en hyperespace pour discuter du fan-film Squad Leader TD73028 Soliloquie.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark!
All right, stand by.
Être ou ne pas être, telle est la question. C'est à cette improbable rencontre entre Star Wars et Shakespeare que le film nous convie en revisitant le célèbre Solicoque d'Hamlet. Mettant en lumière cette résonance contemporaine dans l'écriture shakespearienne qui a traversé les siècles, gardant toute sa force et sa justesse ici, maintenant et dans une galaxie pas si lointaine finalement. Donc, Squad Leader TD-73028, Solicoque est un court-métrage en anglais d'un peu moins de 10 minutes faisant partie des sélections canadiennes de Téléfilm Canada qui va être présentée au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand le 7 février prochain. Avec moi pour discuter de ce court-métrage, je suis accompagné de Maxime-Claude Lécuyer qui est le scénariste et réalisateur, ainsi que David Blouin qui est l'homme sous l'armure de Stormtrooper de ce film. Bonjour messieurs, bienvenue à Star Wars en direct, comment allez-vous?
Bien bonjour!
Bien bonjour, on va très bien, merci de l'invitation.
Ben, ça fait plaisir. À titre d'anecdote pour nos auditeurs, j'ai eu la chance de rencontrer Maxime, puis Maxime-Claude et David lors de l'exposition Star Wars de Jeff Bérard dans une autre galaxie qui a eu lieu l'automne dernier à Blainville au nord de Montréal. Donc avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais en connaître un peu plus sur vous et puis aussi sur votre passion. Donc chacun votre tour, dites-moi un peu comment vous avez découvert Star Wars premièrement.
Ben moi je vais être plus bref que Dave parce que ben moi c'est sûr que c'est vraiment l'enfance là, j'ai bercé là-dedans dans mon enfance, j'avais toutes les jouets, tout ça, donc ça a été un coup de cœur dès l'enfance, puis je m'amusais avec les, je faisais déjà un peu de scénarisation avec ces petits personnages là de Star Wars puis les films. Donc moi ça vient de là, puis ensuite de ça ben c'est sûr que ça a cristallisé un certain amour de cinéma là, de d'enfance là. Mm-hmm. Mais toi Dave, toi t'as découvert ça
Ben au départ Star Wars, moi c'est ce qui a parti le tout, c'est le premier film que j'ai vu de ma vie en 77 quand il avait sorti. Puis ensuite, il y a eu comme une espèce de ben oui, j'ai joué avec les jouets et tout ça, mais c'était en dormance bien des années, c'est quand j'ai eu des enfants. Moi, j'ai eu deux filles, puis à un moment donné, le petit gars qui ressort en soi, mais que, bon, avec mes filles, moi, habillé des Barbies, j'avais fait le tour. Fait que là, suite à ça, bon, Star Wars, là, l'Internet qui arrivait, j'ai réalisé à un certain moment donné que c'était possible de faire un costume. Parce que je voulais en faire un, oui, mais pas qui ressemble. Je voulais le faire à l'identique. Puis là, le net permettait ça.
En effet, donc c'est comme ça que tu entretiens ta passion, c'est en faisant du cosplay. Ouais.
Exactement, c'est que là, en faisant un costume, est venu le cosplay par la suite, c'est le côté créatif de le faire, mais après ça, j'ai appris à apprécier le côté roleplay, on pourrait dire, de participer à des conventions, rencontrer un paquet de gens, puis se faire des amis parmi ça, tellement que le groupe d'amis maintenant, Star Wars, en réalité, c'est une excuse pour se rencontrer. Tout le monde a une passion commune, puis c'est comme ça que, évidemment, que la passion de Star Wars a continué. On regarde les films, tout ça, on a suivi. C'est ça.
Toi, Maxime?
Nous, on se connaît déjà depuis un petit bout. Puis en fait, c'est ça, je me suis comme collé à l'univers de Dave, si on veut, dans des parties. On vient de la même région, Saint-Hyacinthe. Puis,
plein d'amis en commun.
Plein d'amis en commun, tout ça. Puis là, dans un party, il montre son
photo.
En photo incroyable. Il me parle de toute la construction de son cosplay, puis tout ça. Puis là, à la blague, tu sais, je lui lance, OK, on va te faire un drame shakespearien, tu sais, en utilisant là, ton costume.
Oui, c'est ça. C'est, en fait, tu avais manifesté, il faut faire quelque chose avec ça.
C'est ça. Dès qu'il m'a montré les photos, j'ai dit, il faut faire de quoi avec ça. Puis après, j'ai eu l'idée, j'ai dit, OK, ouais, je vais faire un drame shakespearien. Ouais. Avec le cosplay. Le cosplay. C'est ça, fait que c'est venu comme... Moi, je me greffe un peu à ton univers, si on veut. C'est ça, au niveau d'entretenir la passion, ben c'est plus toi qui entretiens une passion
par
au quotidien
Wars,
avec, par rapport à Star Wars, avec les cosplays. Mais moi, je suis un fan, je dirais, plus standard. Là, j'aime les films, je vais les voir, je les ai tous vus, puis c'est ça.
Mais si je me souviens bien, quand on s'était rencontrés à l'exposition, vous venez tous les deux un peu de l'industrie du cinéma, vous avez travaillé tous les deux dans l'industrie du cinéma, si je ne me trompe pas, non?
Ben moi, j'ai une carrière de monteur, puis j'ai fait plusieurs, c'est mon sixième court-métrage, donc je commence à avoir quelques courts-métrages, et puis je suis en train de développer un premier long-métrage, je termine aussi un documentaire, donc j'ai
Puis j'ai roulé ça, j'ai roulé ma bosse aussi pas mal comme monteur sur des documentaires, des longs métrages. Donc ouais, c'est ça. Je baigne dans le milieu du cinéma depuis quelques années, là, une vingtaine d'années.
Quand même.
Ouais, ça fait longtemps.
Moi, pour ma part, pas du tout.
OK. Je pensais que dans notre conversation, parce que t'avais l'air. C'est probablement en dérivant du projet que tu as appris beaucoup de choses pendant que tu faisais le film, probablement.
Ouais, aussi, mais c'est peut-être probable aussi, parce que nous autres, moi et Max, on a des atomes crochus depuis longtemps, mais j'avais déjà étudié là, une vingtaine d'années en cinéma quand même, 2 ans de cégep, puis ça a resté dans mes tripes, on pourrait dire, mais moi, dans vie, je suis pas pantoute dans le cinéma, là. En fait, j'étais électricien.
Okay. D'accord.
Quoique sur le plateau, ça a été d'une grande efficacité. Parce que on était dans un désert,
un désert, une carrière. En fait, oui, une carrière. Oui,
et puis, c'est ça. Puis, on voulait voir s'il y avait de l'électricité dans des longs fils qu'il y avait sur place. Puis, tu avais tout ton kit.
Le bâtiment était très loin, c'est ça.
Oui.
Là, évidemment, j'avais quelques outils qui ont fait que ça a été possible.
Donc, on avait un électro en plus sur le tournage, en plus de l'acteur.
Sinon, on arrêtait peut-être un peu mal.
Oui, c'est ça. Avant de poursuivre vraiment sur les questions sur le court-métrage en tant que tel, qu'est-ce que vous pensez un peu de Star Wars sous le règne de Disney jusqu'à présent, là, avec les 3 films qu'on a et puis la série Rebels aussi?
Mais dans le fond, moi, depuis le règne de Disney, on s'entend pour dire qu'il y a eu The Force Awakens, que plusieurs n'ont pas aimé. Moi, je l'ai aimé. J'ai aimé la mythologie réinstallée, qu'est-ce que le job de J.J. Abrams avait fait. Il y avait plein de ressemblances, c'est pas copié avec l'épisode 4, mais j'aimais le côté, le retour des vrais costumes, moins de CGI, plus réaliste, puis la mythologie. Ensuite, Rogue One, moi, pour moi, ça a été un gros succès, je l'ai vraiment aimé. Puis là, le dernier de Last Jedi, ben là, j'ai eu quelques bémols là, au niveau du scénario, peut-être un peu trop long. Puis aussi la direction, que peut-être ils ont eu l'intention, j'imagine, de nous surprendre, mais je trouve que c'était peut-être un peu trop. Là. Peut-être parce que je suis un vieux de la vieille, on dira. Mais ça restait un bon divertissement. Il y a des personnages comme Kylo Ren. J'ai aimé l'évolution, comment ils l'ont travaillé. Contrairement à d'autres que j'ai pas reconnu les personnages. C'est ce qui m'agaçait un peu, là. Des réactions que non, oui, on vieillit, mais on change pas à ce point-là. Mais là, tu sais, on rentre dans le règne des opinions. Là. J'ai hâte de voir comment J.J. Abrams va ramener ça dans l'épisode 9. Sinon, Han Solo, puis tout ça, j'ai plus ou moins d'attente. On va voir. Je suis positif là-dedans. Là, par rapport à l'après. De Last Jedi, là. Mais j'aimerais, évidemment, qu'il y ait plus une tangente vers le style Rogue One. Là.
Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec
oui,
toi.
Oui, oui.
Ben, en fait, ça s'adresse tout au public adulte là, qui ont aimé les premiers, les premiers
moins,
Star Wars.
Moins de blagues à la Marvel.
C'est très, très marvelisé. Hein.
Oui, c'est ça, Star Wars. Oui, il y avait des périodes il y a des périodes d'humour, mais quand l'Empire arrive ou le New Order, ou les méchants ont une crédibilité dans le sens que on pas avoir peur, mais tu sais, ça va pas bien aller quand ils sont là, les séquences qui sont là. Tandis que dans le dernier film, je trouve qu'ils ont un peu pas ridiculisé, là. Hawk, c'est un bel exemple, là. Je trouve qu'ils ont massacré complètement son personnage, mais ils perdaient en crédibilité, où l'Empire ne tolère pas l'incompétence, tu sais. Vader, c'est non, là, tu sais, il se faisait choquer, là. Puis là, c'est différent, c'est d'autres choses. Mais c'est ça.
Toi, Max, justement, en tant que réalisateur, comment tu vois le Star Wars maintenant que c'est propriété de Disney?
Moi, la ligne Rogue One, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était un film complet puis dramatiquement intéressant. Sauf que c'est ça, ce que j'ai aimé aussi, Force Awakens, c'était juste qu'ils recettaient les paramètres. Ils ont bien fait. C'était peut-être un petit peu convenu, puis c'était un petit peu au niveau du scénario, un peu un calque là, des premiers. Mais là, je trouve que dans le dernier, en fait, au niveau scénaristique puis au niveau storytelling, c'était un fourre-tout à un moment donné. C'est que c'est comme Il y a le potentiel d'avoir quelque chose de très bon, mais noyé dans plusieurs intrigues secondaires avec beaucoup trop de double intrigues puis de revirements et puis tout ça, qui fait que en bout de ligne, ça perdait son impact, là, je trouvais. Moi, en tant que monteur, je pense qu'on pourrait, monteur réalisateur, on pourrait faire un petit bijou avec ce film-là, mais le monteur s'est endormi peut-être pendant le... pendant le montage.
Il y en a trop laissé.
Tu fais une édition spéciale personnelle.
Ah oui, je suis sûr. Mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va le faire et ça va être bon.
D'accord, maintenant, on va parler justement du film en tant que tel. Squad Leader TD 73028 Soliloque. Donc, on va commencer avec le réalisateur. Donc, Max, c'est un mash-up entre Star Wars et Shakespeare. Ça a été quoi ton inspiration puis comment... ce fameux monologue de Hamlet a dirigé vraiment ton choix de scénaristique puis tout ton processus créatif aussi.
Déjà, il y a eu la rencontre là, avec David, puis il m'a montré son personnage puis tout ça. Puis là, c'est comme on disait tantôt, je dis il faut faire de quoi avec ça. Tout ça, l'idée est venue d'en faire un drame shakespearien. Puis tu sais, je le qualifie de fan film, mais en même temps, c'est vraiment un film qui est en continuité avec le travail que je fais sur les autres courts-métrages, comme Zofika, mon autre film avant. Tu sais, c'est comme c'est un film qui est un peu entre les deux mondes. On peut pas vraiment le qualifier de fan film, puis en même temps, ça l'est quand même, mais bon, ça, je trouve qu'il est un petit peu entre deux eaux. Mais tout a été orienté autour du texte, du monologue de Shakespeare, qui est, quand moi je l'ai relu, parce qu'après ça, quand j'ai lancé l'idée de faire le drame shakespearien, après ça, je me suis remis à le redécouvrir le texte, vu toute la richesse puis le potentiel de ce texte-là. Puis là, tout a été en fonction de ce texte-là, le découpage, l'idéation, tout ça. Puis de donner le temps d'absorber ce texte-là. Donc, tout a été fait, le tournage au ralenti, l'espèce de d'enveloppement puis d'hypnotisation qu'on a autour de... Dans le film, créé soit par la musique ou soit par la conception sonore, et dans un espèce de temps arrêté qui nous permet d'absorber le texte, d'y réfléchir. Puis quand tu prends deux mythologies aussi fortes que Star Wars et Shakespeare, puis tu les mets ensemble, ben écoute, les clashs, ça s'entrechoque, tout ça, puis le spectateur, lui, il reçoit ça. Puis en fait, de ça, selon sa culture, selon où il est, il se met à réfléchir à ça. Puis c'est vraiment ouvert, je trouve. C'est comme, c'est un film qui est réflexif, qui est dans une attente. Puis en même temps, il y a comme toute l'individualisation de ce Stormtrooper-là qui réfléchit sur la condition humaine. Puis on y croit, en fait, à ce personnage-là qui, derrière son masque, qui est en réflexion existentielle. Donc, c'est ça. Donc, on essaye de questionner l'existence à travers ça. Puis, il y a un parallèle aussi à faire avec tout ce qui se passe là aujourd'hui dans le monde, là, quand même. Là, il y a des montées d'impérialisme. On n'est pas loin de certaines personnes qui domine le monde, là, tu sais. Donc, il peut y avoir une petite portée aussi là-dessus.
Plein de parallèles.
Il y a plein de parallèles, puis c'est riche, puis en même temps, ça... Sauf que ça... Cette pause-là de réflexion, dit par un Stormtrooper aussi, tu prends ce texte-là, tu le fais dire par un Stormtrooper, là, les gens l'écoutent, tu sais, puis on a... Puis je trouve que l'idée du film, c'était de laisser le temps à ce texte-là de vivre, puis de prendre son sens.
Ce qui est fascinant aussi, c'est que, bon, ce texte-là a été écrit il y a 400 ans, là, puis ça s'applique à quelque chose d'aussi irréaliste qu'un Stormtrooper dans le désert, puis ça marche, mot pour mot. Là.
Ouais, puis c'est ça, puis c'est vraiment, c'est ça, c'est deux mythologies qui sont riches, puis que je trouve qu'en les unissant ensemble, ben ça amène une réflexion... une belle réflexion là, sur... Puis tu sais, Shakespeare il a créé tous ces personnages de la littérature. Puis ben nous autres, notre génération, tu sais, on a grandi avec Star Wars, puis c'est rendu nos personnages mythiques, là, c'est les personnages de Star Wars.
Le choix de l'anglais, c'est tout simplement pour honorer Shakespeare. J'imagine pour d'avoir choisi de faire le film, le monologue en anglais, l'original.
Oui, exactement. Je voulais pas dénaturer le texte. Le texte, il est en anglais. Puis c'est ça, c'est vraiment pour rester proche du texte original. Puis ensuite, ce que ça permet aussi, c'est que maintenant, on peut décliner...
Fait que je peux avoir les versions en sous-titres dans pas mal plein de langues. Donc, ça permet aussi une espèce d'universalité au film qui, après ça, peut se promener.
Mm-hmm. C'est vrai. Le film est court, mais le tournage a dû être long. David, est-ce que tu peux me raconter un peu le tournage de ton point de vue? Parce que c'est toi qui as probablement souffert le plus physiquement dans toute cette chose-là. Donc, est-ce que tu peux nous raconter comme toutes les journées de tournage, s'il y en a eu plus qu'une?
Ben, en fait, on a réussi à tout rentrer dans une journée parce que ça prenait une température idéale, etc. Là où c'est drôle, c'est que on a tourné une journée qui faisait 15 degrés, puis on a vraiment l'impression, en regardant le film, qu'il fait chaud, mais en fait, le matin, j'ai vraiment eu peur d'avoir trop froid.
Okay.
Mais avec l'armure, bon, je l'ai porté souvent, je l'ai ajusté, rendu portable, mais pour ceux qui en portent, savent que c'est jamais trop facile, mais ça a quand même été bien, là, pour ma part, là. Pas trop long. C'était plutôt de la rigolade. On a fait quelque chose de très sérieux, mais en riant, tu sais.
Ouais, ben ça a été une journée de tournage, puis ouais. Pas une si grosse journée. Finalement, on s'est trouvé une certaine manière de tu sais, il a fallu réfléchir à comment on allait faire ça pour que ce soit le plus efficace possible, là, parce que puis on a trouvé comme une manière avec un Ronin puis une rig puis tout ça qui permettait d'un peu de danser puis de faciliter le tournage pour aller le plus vite possible en sachant que ça faisait mal à Dave.
Oui, aussi, c'est ça. Puis la question de trouver une date de tournage, puis de que tout le monde puisse, je pense que ça avait pris un an. Question météo aussi, là. Fallait vraiment que ça aille l'air dans le désert, là. On pouvait pas tourner au février, là.
C'est où, justement, que ça a été tourné, ça?
Ça a été toute une histoire, mais ça a été comme difficile. En fait, c'est une des choses les plus difficiles, ça a été de trouver une carrière de sable, là, où on avait le droit de tourner. J'ai essayé. Puis, tu sais, bon, c'est un film autofinancé, donc on l'a tout fait bénévolement. Donc, j'appelais les carrières, puis ils chargeaient tout un prix fou pour avoir un tournage. Puis là, finalement, j'ai trouvé un endroit, c'était à Saint-Lazare. Puis c'est une commission scolaire, en fait. Donc, la fin de semaine, c'est fermé parce que la semaine, c'est des gens qui apprennent à manipuler de la machinerie lourde. Okay. Là, puis donc, la fin de semaine, c'est fermé. Puis, bon, j'ai négocié un droit d'accès durant une journée, un week-end. Mm-hmm.
Je ne l'ai pas mentionné plus tôt, mais le narrateur, là, je me souviens plus de son nom.
Anton ouais. Golikov.
D'accord. Comment tu l'as rencontré, ce gars? Puis j'imagine que ça a tout été fait en post-production.
Oui, effectivement. En fait, lui, c'est ça. J'ai lu un article sur différents acteurs anglophones à Montréal qui étaient issus du théâtre. Puis son nom est revenu. Puis je l'ai contacté. Je l'ai trouvé. C'est quelqu'un qui a étudié à Londres, justement, le théâtre, qui fait des pièces shakespeariennes à Montréal depuis un bout avec sa compagnie de théâtre, puis que je l'ai approché. Moi, j'avais fait pas mal tout le montage avec une voix guide d'un acteur qui, c'est ça, un autre acteur. Puis, ensuite de ça, on était en post-production ici dans un petit studio. Puis on a enregistré la voix, ça a bien été, ça a été, il a amené toute une couleur, puis toute une, le texte, moi, que j'avais de référence, c'était peut-être un peu plus théâtral, puis lui, il a amené vraiment une intimité, puis une belle justesse là, dans l'interprétation. Je suis très content.
Oui, parce que tu le voyais qu'il y avait de l'expérience, là, de la façon qu'il lisait, puis le rythme qu'il donnait aussi là, aux phrases.
Oui, effectivement. Puis bon, c'est sûr qu'on aussi a eu beaucoup, j'ai eu beaucoup de travail en post-prod pour sélectionner, pour amener ce rythme-là aussi au niveau du montage, pour donner cette justesse-là dans le rythme avec l'image. Là. Ça, il y a un petit travail de minutie qui a été fait là. Puis aussi au niveau du mix, moi j'ai été vraiment chanceux, j'ai été entouré d'une gang là, vraiment tripante. Là. Au niveau de la conception sonore, Olivier Calvert ou Martin Messier, au niveau du mix, il a amené toute une chaleur dans cette voix-là, là, assez extraordinaire.
Parle-moi-en donc de ton équipe, parce que je ne les ai pas nommés, mais si tu peux passer rapidement pour au moins qui a eu le crédit d'avoir...
Complètement, oui, ben c'est ça. Ben, mettons, l'équipe au tournage, là, on était pas une grosse équipe, mais on était toutes là. Mais j'avais mon collaborateur Arnaud Dumas, avec qui j'avais fait mon court-métrage avant. En fait, il y a beaucoup des collaborateurs qui ont participé au film, qui avaient travaillé avec moi avant sur Zofika, entre autres. Arnaud Dumas, mon collaborateur comme directeur photo, et Nelson Villamil qui était assistant caméra. Donc ça a été le core de l'équipe caméra, puisqu'on avait comme une rig avec un Ronin puis un Easy Rig, puis il fallait faire le focus à distance, tout ça. C'était quand même assez laborieux, mais au tournage, ça nous permettait une grande liberté d'action, puis on pouvait suivre rapidement Dave dans un esprit de flottaison. Mm-hmm. Qui permettait un peu toute cette idée-là de lenteur. Puis c'est ça, puis on avait Alex Bernard, l'ami d'enfance de Dave.
Un de nos amis de Saint-Hyacinthe aussi.
Qui est devenu le sound specialist, donc...
Il effaçait toutes nos traces.
Il effaçait nos traces.
Avec un râteau.
Il y avait Cathy Bazidet, ma copine, qui était data wrangler. Donc, elle était dans une petite table au loin en train de transférer des cartes. Puis, il y a un ami aussi qui est venu prendre des photos, Martin Legault, des très belles photos. Donc, tu vois, on était vraiment micro-équipe, là, tu sais, mais efficace, c'est ça. On s'était donné les moyens pour l'être. Puis ben là, c'est ça, j'ai eu comme, tu sais, au niveau de la post-production, où j'ai eu vraiment une top équipe, là. Comme je disais, Olivier Calvert, conception sonore, ensuite de ça, Martin Messier, au niveau du mix, AudioZone, qui m'ont donné un coup de main, puis Marc Boucreau et Film Factory, au niveau de l'image, la correction de couleurs. Donc ça a été, là, écoute, les gens ont été tellement généreux. Puis ce qui me surprenait tout le temps, ça a été que, tu sais, en fait, ces gens-là, je les approchais, puis j'étais là, je fais un fan film Star Wars, puis là, ils trippaient tout Star Wars. Fait que, ils étaient comme, ah oui, ça va être cool, génial, j'embarque, je te donne un coup de main. Jean-Michel Bourgeois aussi, qui a fait les effets spéciaux, qui a travaillé fort, il a intégré la Dead Star, puis des choses comme ça. Donc,
spoilers!
Ah, fuck! Bon, pas comme... fait que ça, c'était trippant. Au niveau de la musique, Carl Bastien, un collaborateur de longue date avec qui j'avais travaillé, qui m'a fait une musique, ben, la musique d'ambiance, là, qui tapisse le fond du film. Donc,
Mais également, pour terminer, c'est grâce à Danny Lennon de Prends sa cour, grand Manitou du court-métrage, qui a choisi la sélection des films à Talent tout court. Et on est bien chanceux, Danny nous aide dans la distribution depuis le début.
Autant j'ai vraiment été, je suis chanceux, vraiment entouré d'une super équipe.
Ça a l'air d'avoir été sur des roulettes, mais est-ce qu'il y a eu certains défis particuliers par rapport à soit la pré-production ou la post-production ou même pendant le tournage?
Ben quand on est arrivé au tournage, on a eu la mauvaise surprise que quand Max avait visité le lieu, c'était au printemps, fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'ouverture, tu sais. Mais quand on est venu, c'était au mois de septembre, fait qu'il y avait eu de l'été, fait qu'il y avait de la verdure, mais partout.
Il a fallu
l'enlever, puis tourner, puis cadrer pour éviter de voir les boisés au loin. C'était assez complexe, parce que le film, on dirait que je marche sur des kilomètres, mais en réalité, c'est la même dune qui a à peu près 15 mètres par 15 mètres.
On a bien exploité tout ce qu'on pouvait exploiter, tous les sens possibles. Mais non, c'est ça, on s'est rendu compte vite qu'il n'y avait pas 60 000 angles.
Ça a rendu la chose un peu plus complexe.
Un peu plus complexe, mais en même temps, on n'avait pas besoin de plus.
Non, mais c'est ça.
C'est ça comme autre problématique. Je sais pas. Ben, on a eu des problématiques, là, tu sais, de... La caméra, il y a eu un... captait les infrarouges, donc il y a eu tout un travail en post-prod. Il y a certains tissus qui sortaient un peu rougeâtres, qu'il a fallu te remettre noir. Donc ça a été un petit peu laborieux.
Égaliser
les noirs, tu sais, parce que, c'est pas un gros truc.
Il y a une fameuse scène qui n'est pas dans le film, puis c'est dommage parce que pour ma part, en tant que Stormtrooper, c'était un exploit. La dune était quand même 10 mètres, je dirais, de haut, puis je l'ai descendu en courant, chose qui est à peu près impossible avec un armure, là. Mais moi, j'avais fait des petites modifications au départ pour que ce soit possible que je me penche, que je puisse m'asseoir, que je puisse monter des escaliers, puis sans que ça brise, on pourrait dire, l'intégrité là, du look, là. Fait que cette scène-là, c'est ça, j'ai carrément descendu la dune de 10 mètres en armure, puis on n'a pas gardé la
malheureusement c'était ça marchait pas dans le film.
T'sais, je l'ai descendu trop bien fait, ça avait l'air trop facile.
C'est ça.
T'avais pas l'air fatigué et désespéré.
Ouais, c'est ça.
Il a fallu qu'il la descende en...
Il aurait fallu que je souffre, tu sais. Ouais, là, ça aurait marché avec le texte.
En tombant, et tout ça.
Fait que vous aviez juste une butte. Vous aviez dû déverdir le lieu de tournage. Puis vous aviez des problèmes d'électricité.
en plus.
Non, c'était extrême. Condition extrême. Tu sais, tournage guérilla style. Non, c'est ça. Mais une journée, bon, puis c'est ça.
Tout dans la boîte. Bien correct. Combien de gigs ça avait pris? Moi, ça m'impressionne à chaque fois.
Beaucoup. Faudrait demander à la Data Wrangler, mais ouais. Non, mais je pense que c'est, je sais plus, une couple de terabytes. Là,
on vidait la carte, il me semble, aux 10 minutes. Ouais. C'était assez impressionnant.
Ça donnait toute la latitude en 4K. De...
Ouais, c'est ça, en 4K, ça prend beaucoup de
oh, d'espace. Ouais, c'est ça. En RAW, en 4K. Donc...
Ouais, en plus. Là, vous allez au festival Clermont-Ferrand, mais comment votre film a... C'est rendu là, en fait, parce que je veux dire, il y a plein de fans qui font des films ou des trucs comme ça, mais pour que ça se rende à un festival aussi renommé que ça, en France, je veux dire, y a-tu des étapes que vous avez faites, ou c'est-tu des connaissances qui vous ont suggéré de faire ça, ou etc. Donc, comment que c'est le court-métrage s'est rendu là?
Ben, comme je disais tantôt, moi, c'est mon 6e court-métrage, donc j'ai comme un petit historique de festivals et de rencontres. Mon dernier court-métrage, Zofika, avait été sélectionné à ce même projection marché de talent tout court, qui est une initiative de Téléfilm Canada à Cannes. Donc, je faisais comme déjà partie, mettons, de cette cohorte-là en 2014. Puis là, j'ai resoumis. Il y a eu un appel d'offres, un appel de soumission de Téléfilm. Puis pour Clermont-Ferrand, puis là, j'ai soumis ce projet-là, le Squad Leader Télé-73-028, Soliloquy, et ça a été accepté. Donc ça, c'est vraiment une belle chance, puis c'est une belle initiative. Il y a juste seulement 9 films qui sont sélectionnés à cette projection-là, le 7 février prochain, au marché du court-métrage de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, c'est comme un peu le Cannes du court-métrage. Donc, c'est le plus gros marché de court-métrage là, mondial. Donc, ça va être la grosse... c'est une belle opportunité qu'on a. Oui. Puis là, on y va, moi puis Dave. Dave amène son costume, donc...
On devrait faire parler de nous.
On a des pins aussi, on a plein d'affaires, ouais. On a des t-shirts, plein de trucs.
Des affiches,
on passera pas inaperçu.
Ok. Est-ce que ça vous tente de savoir qu'est-ce que j'ai pensé du film?
Oui, vraiment.
Donc, pour ma part, ben, j'ai eu l'occasion de le voir, je dois le dire, je l'ai écouté à peu près 12 fois.
T'es chanceux, je l'ai pas vu encore fini, moi.
Ah non? Mon Dieu. Enfin, j'ai eu la chance de le voir il y a quelques jours, et puis j'ai été vraiment surpris. C'est pas un fan film typique de Star Wars où ce que vous allez avoir des duels de sabre laser sur chorégraphiés remplis d'effets spéciaux où le mal affronte le bien. C'est plutôt un film d'introspection, un film de réflexion sur soi-même qui met l'emphase sur le célèbre monologue d'Hamlet. Ce monologue-là est d'ailleurs pratiquement le personnage principal du film qui est exprimé lors de la traversée des désertiques désespérée du Stormtrooper. Et puis, tout comme le Stormtrooper qui contemple en fait sa raison d'être, le film a un rythme là, très lent et une cinématographie contemplative et minimaliste qui laisse la place aux mots justement de Shakespeare. La musique, la super musique atmosphérique, elle... qui comporte d'ailleurs un léger soupçon de marche impériale, vient assembler tout ça dans une ambiance contemporaine qui, pour moi, m'a rappelé certaines scènes du film Blade Runner. Donc, toutes les longues scènes, ça laisse le temps aux yeux de regarder qu'est-ce qu'il y a et puis d'écouter les monologues, etc. C'est un film qui nous enferme dans la tête du Stormtrooper, dans sa propre introspection, et qui va vous faire réfléchir sur l'humanité au sens large. Et puis à la question être ou ne pas être, ben ce court-métrage a sa raison d'être. Et puis bravo messieurs, ça mérite d'être vu ce petit fan film là. Je dirais pas un fan film, un court-métrage.
Oh wow, mais
hey, merci.
Donc j'ai vraiment apprécié, c'est pour ça que je l'ai regardé plusieurs fois, puis réécouter les mots parce que j'étais pas vraiment familier. On connaît toute la première ligne du monologue, mais on connaît pas le reste du texte, puis je l'ai réécouté pour voir le contexte, puis c'est vraiment intéressant.
Mais c'est exactement ça. Si ça peut comme faire redécouvrir ce texte-là, le remettre au
au goût du jour, à divers
générations aussi, qui peuvent rentrer en contact avec ce texte-là et en voir toute la portée, ben là, notre job va être fait, là, tu sais, dans un
c'est
sens.
C'est ça. Pensez pas que vous allez avoir de la musique de John Williams là-dedans, là. C'est vraiment, là, atmosphérique, des ondulations de basse et de haute, là, qui sont mixés, c'est vraiment atmosphérique. Là. C'est vraiment, t'es dans la tête du Stormtrooper là, dans tout le film. Puis, juste la façon même que David l'a acquitté, si on peut dire ce mot-là, on voit qu'il est vraiment désespéré dans sa réflexion.
Oui, la lourdeur.
Ouais, puis le fait d'avoir tourné à 60 images secondes ralenti, je savais que ça allait magnifier un petit peu certains, les petits gestes, les petites choses, parce qu'il se passe, c'est ça, on est dans la réflexion, on est dans la contemplation, donc le fait de tourner au ralenti permettait de que tous les gestes...
De tout souligner, les moindres détails, ouais.
Ça empêche d'être distrait, parce qu'il faut que tu te concentres aussi, il y a plein de choses intéressantes qui sont dites, et puis tu veux faire le lien avec ce que tu vois en même temps, donc c'est le ralenti est très... Je pense que c'était la façon de faire pour ça, parce que sinon... T'aurais trop été concentré sur le visuel et pas sur le texte. Puis, comme je dis, je pense que c'est le texte, le personnage principal vraiment de tout ça. Parce que c'est ça qui est le message, en fait.
Donc, exact.
C'est vraiment une façon de le projeter à des fans comme nous qui ont probablement jamais vu de pièces d'Hamlet tout court. Parce que même moi, j'ai jamais vu de pièces d'Hamlet en tant que tel, ni vu un. Ben, j'ai peut-être vu un film retravaillé version moderne d'Hamlet, mais...
Oui, c'est ça, ça permet de le faire redécouvrir à plein de gens.
Exactement. Donc, messieurs, Max, tu as dit que tu avais d'autres projets en vue. Est-ce que tu peux mettre un peu plus de détails là-dessus?
Oui, ben j'étais en écriture d'un premier long-métrage qui s'appelle Pentimento, qui est dans un autre univers. C'est un polar philosophique, si on peut l'exprimer ici, dans le milieu de l'art. Donc, c'est au sujet d'un vol de tableau. Vol de tableau qui a eu lieu en 1972 au Musée des Beaux-Arts de Montréal et qui est toujours un mystère aujourd'hui. Donc, à partir de ce fait-là, je développe une fiction autour de ça. Et puis, également, je termine la post-production d'un documentaire, web documentaire, sur... 305 de Bellechasse, qui est un lieu où il y a à peu près une trentaine d'artistes de renom qui sont là dans ce building-là. Puis j'en ai choisi une dizaine. Puis c'est des visites d'ateliers sur leur atelier puis sur leur processus de création. Donc il y a ces deux projets-là qui sont sur la table là, puis qui sont en train d'être développés. Il y a plein de belles nouvelles là, qui s'en viennent, qu'on peut pas tous dire là, au niveau de Squad Leader, mais Squad Leader déjà là, on va à Clermont au marché, et puis en avril il va faire partie d'un programme en Asie, donc il va aller au niveau de l'Asie.
Mondial. Oh, c'est excellent ça. Excellent. Toi, David, tu vas continuer à faire du trooping, j'imagine, dans la 501e?
Oui, de façon aléatoire et occasionnelle, mais oui, toujours une passion qui va continuer certainement.
Peut-être certaines célébrations qui s'en viennent, peut-être en 2019.
Oui, 2019, certain. J'étais là, moi, à Orlando, en 2017. C'était vraiment incroyable. Oui, non, c'est marqué au calendrier.
Excellent. Moi, j'ai eu la chance de le voir, mais est-ce que, Max, quand est-ce que ça va être disponible pour tout le monde, ce fan-film-là?
Ben c'est ça. Là, l'idée, c'est de faire une première tournée de festival et puis ensuite le mettre en ligne. Donc, j'ai l'impression que ça va aller plus peut-être à l'automne prochain, là, fin de l'automne ou peut-être dans un an. Ça va dépendre le nombre de festivals qu'on va faire.
Donc, messieurs, si les gens veulent vous rejoindre, communiquer avec vous, quoi que ce soit, comment peuvent-ils vous rejoindre? Je vais commencer avec Max.
Ben, le film a plusieurs. Il y a la page Facebook du film, il y a le compte Twitter, il y a l'Instagram du film. C'est tout autour du TD73028. Donc, vous pouvez me trouver là, facilement sur ces médias sociaux-là. Et puis, il y a mon site web aussi, www.maximeclaudelécuyer.com.
Puis, moi, dans le fond, il y a mon Instagram, David Blouin, TD73028, que les gens peuvent venir voir des photos. J'y mets des photos de mes prochains projets aussi. Je suis en train de faire deux costumes de Mandalorian, des trucs comme ça là, qui s'en viennent là, prochainement. Là, c'est long, mais quand je l'ai fini, il faut qu'il soit à ma satisfaction.
Donc, je viens de réaliser que le TD 113028, c'est ton vrai numéro de la 501st.
Exact. Oui, parce que ça, Max, il voulait m'intégrer. Tu sais, on me voit pas le visage, rien dans le film. Tu sais, je suis comme anonyme. Puis en intégrant, des fois, c'est un peu compliqué dans le texte, là, parce que c'est un long chiffre. Mais en m'intégrant dans le texte, comme ça, c'est une façon de me remercier là, d'avoir participé.
Ben, c'est un hommage à ton, tu sais, le film, à ton costume, parce que le film marcherait pas aussi bien sans la justesse puis la rigueur de le look général de son du suit qui est comme parfait là, comme réplique.
Oui, parce que ça aussi on n'a pas parlé, mais moi quand j'avais fabriqué ce costume là à l'origine, je voulais copier la scène Move Along le plus possible. Puis un œil averti va les voir, mais même la tâche est à l'identique, la hauteur du eyebrow, le nombre de lignes bleues, l'œil mal découpé, même j'ai des dents mal peinturées, exactement pareil, des oreilles un petit peu mal coupées, j'ai vraiment, même le weathering, je l'ai pas mal sali pareil au niveau du casque là, le plus possible, j'ai fait des agrandissements du film pour... avoir l'essence du personnage. Puis, forcé d'admettre que je l'ai eu pas pire.
Ben merci, Max et David, d'être venus à l'émission et d'avoir été les cobayes de cette première édition interview de Star Wars en direct. Je rappelle à tous nos auditeurs européens qui voudraient voir le fan film. On pourrait dire même le court-métrage Star Wars, parce que c'est pas tout à fait un fan film. Il sera en avant-première au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand le 7 février 2018. Donc, merci, messieurs.
Ben, un gros merci, puis au plaisir de se revoir, Danny. C'est toujours un plaisir.
Merci également, au plaisir de se voir, mon cher. C'est très, très apprécié.
Donc, on va conclure l'émission là-dessus. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur ce que l'on vient de discuter par email à studio@starwars.direct ou sur l'article d'épisode sur notre site starwars.direct ou encore sur nos réseaux sociaux, la page Facebook, notre compte Twitter, notre chaîne YouTube, etc. Je vais laisser dans la description les façons aussi de rejoindre Maxime et David. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter à l'usager Danny Pépin. On remercie nos partenaires Mintinbox, Star Wars Holonet, Citlan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Making Star Wars France et Génération Star Wars et Science Fiction. Sur ce, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.